Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus.
Et les grands débats ce matin, Alexis Poulain est avec nous. Dans un instant, Éric Revel sera avec nous aussi, qui reviendra sur le prix de l'essence qui grimpe de nouveau en flèche. Oui. Et vos appels 0-826-300-300 pour traiter l'actualité avec nous.
Avec vous aussi au standard, bien sûr. Et on commence avec Alexis Poulain qui nous a rejoint de nouveau. Bien sûr, Alexis. Et on va commencer par parler peut-être aussi de l'actualité qui fait beaucoup réagir hein, depuis hier soir, beaucoup encore ce matin, sur finalement l'affaire dans l'affaire concernant Damien Abad, le ministre des Solidarités, accusé de viol par deux femmes, on le rappelle. L'une de ces deux femmes, deux plaintes en tout cas, ont été sans suite. On va rappeler aussi sur le fait que, voilà, ce que dit en fait en gros la journaliste de Mediapart, c'est qu'elle a contacté le service presse de Matignon dès vendredi soir. Donc voilà. Et on a Elisabeth Borne qui nous dit dans un second temps le dimanche qu'elle n'était pas au courant de cette affaire. Alors qu'est-ce qu'on doit en penser et quelle est votre réaction à ce sujet, Alexis ?
Mais en fait, c'est la trahison plus vite que son ombre, c'est-à-dire qu'Elisabeth Borne fait une interview le dimanche dans le JDD disant que je ne mentirai jamais aux Français, et elle commence par mentir en disant qu'elle n'était pas au courant pour Damien Abad, alors que Mediapart dit que oui, le cabinet a été contacté, et Élysée comme Matignon était au courant de ces allégations, enfin de ces accusations, pardon, de violences sexuelles à l'encontre de Damien Abad. Donc, c'est les mêmes pratiques, enfin ça va être très compliqué, avec une porte-parole en plus, Olivia Grégoire, hein, qui vient d'être nommé et qui, lors de son premier point presse, est obligé de mentir en disant « on ne savait pas », alors que les cabinets du Premier ministre et du Président de la République étaient au courant. Donc ça montre que le discours de Macron, nouveau président, nouvelle méthode, etc., c'est du blabla comme d'habitude et que les pratiques vont continuer avec cette post-vérité ou réalité alternative ou du moins des lignes de les éléments de langage qui vont se succéder à la vitesse de l'éclair, j'ai l'impression.
Ouais. Ça veut dire que si on considère, alors c'est juste pour préciser, mais si le service presse de Matignon, l'Élysée, si les cabinets sont au courant, on peut en déduire que Elisabeth Borne était sans doute au courant.
Potentiellement. Alors évidemment, ils ne sont pas au courant de tout.
Coup, voilà.
Je crois que la pire excuse, c'est là où elle peut se défendre. Oui, voilà, c'est là où elle peut se défendre. En disant, moi, personnellement, en tant que Premier ministre, j'étais pas au courant, mais mes services étaient au courant, et c'est là tout le distinguo. Je crois que l'excuse la plus bidon qu'on ait entendue, c'est quand même Stanislas Guérini qui a dit, j'ai pas le temps de lire mes mails, on est en pleine campagne législative, donc il fallait m'envoyer un SMS ou m'appeler. C'est toujours la faute des autres. Sur une nomination comme celle-là, c'est vrai que, alors, on sait que le temps est pris maintenant hein, pour aller vérifier qu'il n'y a pas de compte en Suisse depuis le précédent Cahuzac, les déclarations des ministres sont bien toutes conformes avec la haute autorité à la transparence de la vie publique, etc. Mais ce type d'affaires, effectivement, ne rentre pas dans le scan qui est fait de la vie des ministres. Donc, on peut effectivement laisser le bénéfice du doute et dire que Mme Borne n'était pas, elle, personnellement au courant, mais ses services, oui, eux l'étaient.
Ça risque de peser véritablement sur ces législatives ou pas ?
Je sais pas. Ce qui va peser, c'est le fait que cette affaire en fait masque la campagne des législatives. C'est-à-dire, on ne parle à nouveau pas du bilan d'Emmanuel Macron, on ne parle pas à nouveau de projet. On est vraiment dans cette idée de gagner du temps, dans ce bouillon de l'information à chaud, de la polémique permanente. Ce qui fait que finalement, tout ce qui est campagne législative, tout ce qui est opposition, proposition. Alors, on parle du SMIC, de l'inflation, ce qui préoccupe les Français aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat, c'est aussi l'état de l'économie. Et ça, on a l'impression qu'on fait comme si tout allait bien, alors qu'on voit bien que tous les voyants sont rouges et que le gouvernement n'a pas vraiment de réponse. Même les 15 centimes qui étaient offerts à la pompe ont été gommés par la hausse à nouveau du prix de l'essence. Donc on rétropédale.
Avec Éric Revel juste après 9h.
Oui. Voilà. Donc, je fais confiance à Éric pour faire un excellent panorama.
Écoutez,
sur
Alexis,
ce qui se passe actuellement.
Il est au fond, là, il a levé les bras. Donc, à mon avis, c'est qu'il pourra nous en dire un peu plus.
Ça, j'en suis absolument sûr.
Mais oui, c'est vrai que c'est les sujets de fond. Et c'est important aussi d'en parler et de ne pas masquer ces sujets de fond aussi par toutes ces polémiques. Quand bien même, on parle d'affaires, pour le coup, qui peuvent être très sérieuses. Et c'est important aussi d'entendre la parole de victimes si la justice estime effectivement qu'elles sont victimes dans cette affaire-là. On va prendre... Oui, allez-y Alexis.
Je crois juste, un dernier mot, cette affaire Abad aussi, elle arrive un peu comme un retour de boomerang après l'affaire Bouafs hein, du côté de la France Insoumise, où on a vu qu'il y a eu un tir de barrage par rapport à ça. Et là, on a l'impression que c'est un peu la revanche, d'une certaine façon, c'est mal placé, mais c'est un peu ce qui se passe. Et du coup, ça prend une ampleur que ça n'aurait peut-être pas eu dans d'autres temps.
D'accord. On va aller du
au
côté
standard.
Du standard.
0826 300 300, c'est le Tarn-et-Garonne qui sonne avec Pierre au bout du fil. Bonjour Pierre.
Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Vous voulez parler de quoi ce matin?
De la variole du singe.
De la variole du singe, oui.
La variole du singe.
Pour en dire quoi, mon cher Pierre?
Ben, en fait, la variole du singe, vous savez, moi je suis né en 54, j'ai 68 ans, et avant on nous faisait le BCG à l'école. On avait des vaccins qui... Maintenant, il n'y a plus rien et voilà. Et la variole du singe, c'est pareil. On faisait un vaccin, enfin, c'était pas la variole du singe.
C'était c'est les vaccins sur la variole, pour le coup, qui marchent aussi sur la variole du singe.
Et la variole, bon, et moi je suis immunisé vu que j'ai eu le vaccin. À l'école primaire. Et maintenant, bon, ça va s'étendre. Alors, vite, maintenant, ils vont vouloir vacciner et il va y avoir toujours les anti-vaccins. Et voilà.
Mais c'est ce qu'on a appris hier, Pierre, on le rappelle pour les auditeurs de Sud Radio qui nous rejoignent, hein, c'est que la Haute Autorité de Santé a recommandé hier de vacciner les cas contacts à risque de personnes qui développent cette maladie-là. Hein.
Et disons qu'il faut, moi je crois qu'il y a des épidémies comme ça, il faut rendre obligatoire ces vaccins-là pour éviter la contagion.
Bon, en tout cas, le débat est lancé, puis on aura l'occasion bien sûr d'y revenir, d'en reparler, notamment sur la question du jour. N'hésitez pas à voter, on vous pose la question sur notre compte Twitter, notre page Facebook. Est-ce que vous avez peur qu'on aille vers de nouvelles restrictions sanitaires avec cette variole du singe? Oui, non, sans avis, vous votez, vous réagissez bien sûr du côté de nos réseaux sociaux.
Et dans un instant, Éric Revel sera avec nous, 8h57.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus.
Et tout de suite, Éric Revel. Bonjour Éric, bienvenue.
Bonjour Cécile, bonjour Benjamin.
Bonjour Éric. Et oui, nouvelle flambée du prix de l'essence, donc à la pompe, nouveau coup dur pour le pouvoir d'achat finalement des Français.
Ben oui, hein, c'est mauvaise nouvelle, très nette nouvelle flambée du prix des carburants, près de 9 centimes de hausse pour l'essence, hein, alors que le prix du gasoil en moyenne reflue quelque peu. Alors évidemment, ça va affoler de nouveau ceux qui sont dans l'obligation d'utiliser leur véhicule, notamment dans nos régions, où les transports en commun sont inexistants ou presque. C'est un vrai sujet et on en parle partout ce matin dans les cafés et ailleurs.
Bien sûr. Il y a des mesures dans les tuyaux, mais que prévoit le gouvernement? Parce que la remise de 15 centimes dont on parle à la pompe, elle n'est pas éternelle.
Non, elle n'est pas éternelle. Elle va s'arrêter le 31 juillet. Donc le gouvernement prévoit de mettre en place, comme Emmanuel Macron s'y était engagé pendant la campagne électorale, le gouvernement prévoit de mettre en place un mécanisme pour, entre guillemets, les gros rouleurs. Alors bon, c'est compliqué de définir la notion de gros rouleurs, mais en tout cas, le mécanisme est à l'étude. Qui viendrait donc en soutien à la fin juillet, parce que je le rappelle, c'est au 31 juillet prochain que l'aide de 15 centimes par litre décidée par l'État, que cette aide s'arrêtera.
Bon, le gazole est toujours moins cher en moyenne en France, et pourtant il pollue plus que l'essence.
Ah ouais, alors ça c'est quand même un truc qu'il faudrait un peu expliquer aux Français, parce qu'on a dit aux Français qu'il fallait acheter, vous vous souvenez, des véhicules roulant au gasoil pendant des années. Les différents gouvernements qui se sont succédés ont affirmé à nos compatriotes que c'était le véhicule donc qui polluait le plus, après on leur a dit. Donc avant, acheter des voitures diesel, et après, non, arrêtez, ça pollue trop. Bon, aujourd'hui, le prix à la pompe du gasoil, il est toujours moins cher que l'essence. Donc on peut se dire, au-delà du mécanisme que le gouvernement veut mettre en place, pourquoi ne pas décider, d'une baisse des taxes sur les carburants? Je le rappelle, ça représente 60% du prix d'un litre, ces taxes. Ça aurait un double effet si on baissait les taxes. Ça aurait un effet social sur le pouvoir d'achat des Français, puis ça aurait un effet écologique, puisqu'on sait que quand même, rouler en voiture, c'est moins bien pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement, évidemment, que si on prenait le vélo. Alors, vous allez me dire, si on baisse les taxes, ça crée un problème sur les recettes de l'État, c'est toujours la même chose. Ouais. Mais au vu des finances publiques françaises en ce moment, et parce que Bruxelles dans sa grande bonté, diffère encore d'un an jusqu'en 2023 le retour à la rigueur budgétaire, ben, au vu de l'état de nos finances publiques, je serais tenté de dire, écoutez, lâchons un peu sur les taxes sur le carburant, ça permettra aux Français de récupérer du pouvoir d'achat. Hein. Bon, eh ben, on le demande, le gouvernement peut décider, oui, d'une baisse là, urgente des taxes sur l'essence.
Si on en revient sur les causes, Eric, quelles sont les raisons actuellement de cette flambée à la pompe du prix des carburants ?
Alors moi j'en vois deux, Benjamin. Hein, ouais. Comme Bruxelles cherche à imposer, vous le savez, hein, vous en avez parlé, un embargo sur le pétrole russe, bah, par définition, les prix montent mécaniquement parce qu'on craint qu'il y ait un problème d'offre. Et puis comme dans le même temps, l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs de pétrole, ne veut pas accroître sa production, bah, vous avez une demande forte et une offre de pétrole réduite, bah, ça pousse les prix à la hausse du pétrole et donc bah, de l'essence et du gasoil. Il y a une autre raison aussi, un peu plus saisonnière aux États-Unis. Commence la grande saison, ce qu'on appelle la transhumance, où les familles se déplacent beaucoup plus au beau jour, ce qu'on appelle la driving season. Bah, là aussi, une demande supérieure de pétrole aux États-Unis, bah, ça a des impacts chez nous. Alors le pétrole du schiste américain, vous savez, on en parle beaucoup. Hein. Est-ce qu'il va venir au secours ? Est-ce qu'il va venir fluidifier tout cela aux États-Unis et en Europe ? Bah, la guerre en Ukraine, qui remplacerait d'ailleurs du pétrole russe par du pétrole américain, avouons que l'affaire ne serait pas mauvaise pour Washington.
Ah bah voilà, bah on va continuer à en parler. Merci Eric Revel. Eric Revel qui reste avec nous, puis avec également, oui, on l'a retrouvé.
Alexis Poulain.
C'est ça, Alexis Poulain, voilà, je vérifiais, il est bien avec nous. Alexis Poulain, vous avez entendu Eric Revel à l'instant sur cette question de la nouvelle flambée des prix à la pompe, avec les explications d'un côté, et puis les réponses, en tout cas, que le gouvernement tente de mettre en place, pour commencer, sur ces solutions trouvées par le gouvernement, avec peut-être, après le 31 juillet, une ristourne plus ciblée cette fois-ci sur les gros routiers.
Oui, enfin, ça va être du bricolage. Hein. Le fait est que les prix continuent d'augmenter, qu'il n'y a pas de réponse structurelle à l'inflation à part la hausse des taux, hein, qui est timidement annoncée par Christine Lagarde, mais les banques centrales n'ont que peu d'outils à disposition. Et puis, la spéculation qui continue, puisque la guerre en Ukraine reste incertaine, et on voit que chacun maintenant cherche à s'approvisionner en énergie à droite et à gauche. Olaf Scholz, hein, le chancelier allemand, qui fait une tournée africaine parce que le Qatar ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et fournir tout le gaz à l'Allemagne. Donc c'est vraiment un sujet qui va ne faire que devenir de plus en plus complexe, de plus en plus délicat, parce que derrière ce prix à la pompe, c'est toute l'économie qui est impactée. C'est bien sûr les gens qui doivent prendre leur voiture pour aller travailler, mais c'est le secteur des transports et toutes les entreprises qui voient leur charge et leur coût fixe exploser. Donc la solution va être d'aider d'un côté les entreprises, j'imagine, et de l'autre les particuliers de manière ciblée, mais ça ne peut avoir qu'un temps. Le fait marquant, c'est qu'aujourd'hui, on entre peut-être dans l'économie du pétrole cher, et c'était ce qui était redouté par les économistes depuis des années, et si c'est le cas, alors la récession n'est pas très loin.
La récession n'est pas très loin. Eric Revel, vous parliez aussi de cette solution américaine dont on parle de plus en plus, pour développer justement un peu plus pour nos auditeurs de Sud Radio qui vous écoutent, en quoi ça pourrait être une solution, et est-ce que ça peut être moins cher, ou est-ce qu'il va falloir aligner un peu plus d'argent quand même?
Non, mais le gaz de schiste américain, bon, d'abord, utilise des techniques qu'on ne voudrait pas utiliser en Europe, hein, notamment parce qu'on craint que ça fractionne le sol. Enfin, il y a des tas de considérations écologiques. Mais ce qui est quand même incroyable, si vous voulez, c'est que si Mme von der Leyen, au nom de Bruxelles, met en place un embargo contre le pétrole et le gaz russe, à qui va profiter cet embargo, en réalité? Si l'OPEP, l'Arabie Saoudite en tête ou d'autres ne veulent pas augmenter leur production de pétrole, bah, tiens, ça profitera aux Américains et à leur gaz de schiste, justement. Parce que vous avez, c'est le premier producteur en fait, mondial des États-Unis grâce au gaz de schiste et grâce au pétrole de schiste. Donc ça veut dire qu'indirectement, l'embargo sur le pétrole russe profiterait aux États-Unis. Donc il faut quand même se poser quelques petites questions. Question écologique, est-ce qu'on est prêt à consommer dans des pays qui veulent respecter les accords de Paris du gaz ou du pétrole qui serait extrait de manière non écologique au sens large? Et puis deuxièmement, est-ce qu'on est prêt à être dépendant des États-Unis pour le gaz, pour le pétrole, après l'avoir été notamment pour l'Allemagne de la Russie? Et est-ce qu'on peut se poser une question tranquillement, sereinement, en se disant, mais quand même, c'est un peu fort de café, un embargo sur le pétrole et le gaz russe, ça profiterait aux États-Unis, comme souvent les guerres, c'est quand même intéressant. Souvenez-vous, de la guerre en Irak, qui a reconstruit l'Irak après les bombardements américains, ben, comme par hasard, ce sont des entreprises américaines. Bon, comme dit l'autre, je dis ça, je ne dis rien, mais je le note quand même.
On a moyen de diversifier justement sur ces questions-là, ben, notre écoutez, approvisionnement.
Oui, on a moyen d'acheter plus de gaz ou plus de pétrole à l'Algérie, on a moyen d'acheter plus de gaz ou plus de pétrole à la Norvège. Mais le problème, c'est que si vous décrétez d'un embargo sur le pétrole et le gaz russe, bah, tous les pays qui aujourd'hui s'approvisionnent grâce à ces gazoducs ou grâce à ces différents tuyaux de pétrole, bah, ils sont tous logés à la même enseigne, c'est-à-dire qu'ils frappent tous aux mêmes portes en même temps.
Ouais.
Donc, de toute façon, l'offre n'est pas suffisante. Je le disais tout à l'heure, l'OPEP, pour l'instant, pour des questions qu'on comprend, ils savent que cette énergie fossile arrive à sa fin. Ils savent qu'ils sont encore pour quelques années assis sur un coffre fort. Mais le pétrole, la fin du pétrole arrive. Donc toutes ces monarchies pétrolières, elles n'augmentent pas leur production pour continuer à gagner un maximum d'argent puisque le prix du pétrole augmente. Bon. Donc l'OPEP ne veut pas accroître sa production. On nous annonce, bien que ce soit compliqué, tout le monde n'est pas d'accord en Europe, mais Mme von der Leyen décide pour tout le monde, donc il n'y a pas de souci. On nous annonce un embargo sur le pétrole russe. Ben, qu'est-ce qui reste ? Quelques producteurs indépendants, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, le gaz de schiste et le pétrole de schiste américain. Voilà.
On y revient. Ouais.
On y revient. Voilà. Donc, moi, je pose juste la question. Je me dis, mais quand même, c'est un peu fort de café, tout ça.
Eh ben, vous pouvez réagir au 0826-300-300. En tout cas, on va au standard tout de suite avec, je crois que c'est Christophe qui nous attend. Bonjour, Christophe.
Du Gers. Bonjour, Christophe.
Oui, bonjour, Benjamin. Bonjour, Cécile.
Bienvenue sur Sud Radio. Alors, vous vouliez réagir sur quel sujet, vous ?
Oui, alors moi, je veux réagir parce que depuis lundi, j'ai entendu le témoignage de Hugo de Shanghai, là, qui parlait de son confinement.
Incroyable témoignage.
Un truc incroyable. Avec,
confiné depuis 52 jours, il était.
Voilà, voilà, tout à fait. Et voilà. Et puis, je me suis dit, c'est quand même incroyable que ça ne fasse pas plus de bruit que ça. Et puis, donc du coup, je me suis renseigné. Et puis, depuis lundi, j'ai regardé, Shanghai, c'est une ville énorme, c'est 23 millions d'habitants, c'est le premier port du monde. Donc je me suis dit que ce confinement allait forcément avoir des conséquences économiques, sur des pénuries de composants électroniques, etc. Et puis du coup, je me demande si on peut pas parler vraiment d'une alliance presque, d'une alliance objective entre la Russie et l'Ukraine, puisque depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, la Chine n'a pas condamné, elle a fait un accord bancaire avec la Russie pour lutter contre l'exclusion de SWIFT, elle achète le gaz depuis qu'on fait un similaire embargo et elle fait des confinements pour créer des pénuries. Voilà, donc je me demande si on regarde
officiellement, c'est la fameuse stratégie zéro Covid, on confine strictement pour ne pas que la crise du Covid justement ne s'intensifie là-bas.
Oui, bien sûr, et comme par hasard, c'est le premier port du monde.
C'est pas parce qu'on est le premier port du monde qu'on est protégé du Covid. Le fait de mettre en place une stratégie zéro Covid avec un confinement très très strict, ça c'est un choix effectivement politique de la part de la Chine.
Mais ça tombe quand même bien entre guillemets. Hein. Ça va encore dans le sens, on va dire, qui favorise la Russie, puisque en créant des pénuries chez nous, elle aide forcément par l'effet de levier la Russie. Et puis voilà. Ça fait beaucoup de choses et
merci,
je me demande
si
elle bénéficie pas d'une immunité un petit peu la Chine.
Merci Christophe. Et alors vous pouvez retrouver aussi, on avait eu justement, c'était Monsieur Linco qui est spécialiste sur ces questions-là, sinologue, qui nous parlait aussi en l'occurrence que la Chine, elle avait vu ce qui s'était passé pour l'Ukraine, pour la Russie en Ukraine, et que ça avait pas mal refroidi la Chine vis-à-vis notamment de Taïwan. Donc la Chine fait quand même un petit peu attention à ce niveau-là, même si, on le sait, il y a un jeu très clairement dangereux qui se fait entre la Chine et les États-Unis également. Petite réaction peut-être à Alexis Poulain, c'est vrai que vous avez peut-être vu ces images de confinement très dur du côté notamment de Shanghai. C'est vrai que on comprend, Christophe, ça interpelle, c'est impressionnant.
Mais c'est impressionnant et c'est inquiétant surtout de voir de quoi l'humain est capable décennie après décennie, siècle après siècle, pour maltraiter ses semblables. C'est proprement scandaleux. Le fait d'arriver à ce système. Alors moi, ce qui me fait peur, c'est de voir les discours hein, qui sont associés à ça. Alors il y a le confinement absolu, puis il y a la sécurité sanitaire universelle hein, qui est proposée par Emmanuel Macron et l'OMS. Qu'est-ce que ça veut dire, cette sécurité sanitaire universelle? Plus ça va, plus on a l'impression que pour notre bien, on va être enfermé, pucé, traqué, sanitarisé de manière volontaire ou non. C'est un monde qui fait peur. Je parlais de Davos dans mon édito tout à l'heure, mais on voit bien qu'il y a cette folie hygiéniste qui revient, hein, qui était là peut-être et bien au 19e hein, pour éviter bien des maladies. Mais aujourd'hui, on est dans une autre folie hygiéniste, celle un peu de changer l'humain, d'un homme nouveau qui serait totalement propre, libre de tout virus et de toute bactérie. Moi, ça m'inquiète, cet ordre sanitaire mondial.
On continue en tout cas les débats avec vous, Alexis Poulain, bien sûr, avec vous aussi, Éric Revel. Dans un instant, on viendra sur ce drame aux États-Unis, cette tuerie de masse dans une école du côté du Texas, 21 morts, dont 19 enfants. On parlera justement de la question, parce que Joe Biden a pointé du doigt la responsabilité du lobby des armes, notamment. On va en débattre dans un instant avec vous, messieurs, bien sûr, et puis avec nos auditeurs aussi. Cécile.
Absolument, 0826 300 300 et à partir de 9h30, on reviendra sur la fréquentation des cinémas qui est encore loin des niveaux habituels et espérés. Pourquoi les Français ne vont-ils moins au cinéma, ou en tout cas moins souvent? On a une question du jour et dites-nous hein, si vous n'allez pas au cinéma et pourquoi vous n'allez pas. Est-ce que c'est l'offre qui est inintéressante? Est-ce que c'est trop cher pour vous? Est-ce que c'est trop loin? Est-ce que vos habitudes ont changé? Est-ce que vous préférez aujourd'hui les plateformes? On a envie de vous entendre sur ce sujet. 0826 300 300, vous pouvez déjà vous inscrire tout de suite. À tout de suite, il est 9h18.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus.
Il est 9h20, c'est la suite des grands débats avec nous. Éric Revel, Alexis Poulain, vos appels 0826 300 300, on a envie de vous entendre. Le sujet du jour, Benjamin?
Eh bien, c'est ce drame. Oui, malheureusement, oui, l'heure un peu à la peine du côté des États-Unis et du Texas, avec, on le rappelle, hein, ce bilan de cette nouvelle fusillade mortelle dans une école, 21 morts, dont 19 enfants, école du Texas. La réaction hein, de Joe Biden, je vous la redonne, nous devons faire plus, il est temps de transformer la douleur en action. Le président des États-Unis qui a rappelé qu'il voulait lutter contre le lobby des armes. Éric Revel, par rapport à cette actualité, on a l'impression, et notamment sur ces tueries, elles se sont multipliées ces derniers jours. On a l'impression un peu d'une loi des séries et de ce débat finalement éternel sur la question du port des armes aux États-Unis. Est-ce qu'un jour ça sera résolu ou pas? Et est-ce que on peut faire avancer les choses en ce sens du côté des États-Unis?
C'est évidemment horrible, monstrueux et compliqué parce que je rappelle que le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis permet aux citoyens américains d'être armés pour défendre, dit le deuxième amendement, l'État, son État, les États fédérés. Donc c'est inscrit dans la Constitution américaine, le port d'armes. Donc il y a, je crois, 300 millions d'armes aux États-Unis. Enfin, c'est absolument hallucinant. Il y a sans doute aussi la crise du Covid, du confinement, hein, qui a peut-être eu un impact sur le nombre de tueries qu'on a l'impression de vivre tous les trois jours en provenance des États-Unis. Maintenant, je vais vous dire, quand j'entends Joe Biden employer le mot après cette tuerie qui a tué quand même 19 enfants,
ouais, c'est ça.
Il emploie l'adjectif « je suis écœuré ». Mais écœuré, pour moi, c'est pas du tout le... Il aurait pu dire « je suis horrifié, je suis à terre ». Mais écœuré, c'est à la fois un mauvais adjectif pour qualifier ce genre de tuerie, me semble-t-il. Mais c'est aussi un adjectif qui montre une impuissance. C'est-à-dire, je suis écœuré, ça veut dire, je ne sais plus quoi faire, quoi. Je suis tellement... Voilà.
Mais d'ailleurs, dans le ton même de Joe Biden, quand on l'a entendu parler, il y avait le sentiment, finalement, qu'il était complètement dépassé, quoi, là-dessus.
Mais oui, parce que là, pour le coup, je vais être peut-être plus aimable que d'habitude avec Joe Biden, mais ça ne tient pas à ce qu'il représente ou ce qu'il est aujourd'hui. Joe Biden, ça tient au fait, encore une fois, que dès l'instant où la Constitution américaine permet à n'importe quel citoyen de détenir une arme, et une arme, c'est pas un martinet, hein, c'est détenir un fusil à pompe, détenir un revolver, voilà, dans la grande tradition de la conquête de l'Ouest et de la défense du citoyen américain. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Les tueries peuvent y en avoir sans arrêt. N'importe quel citoyen américain qui a disjoncté, qui est dans une situation, enfin, c'est terrible, peut ouvrir le feu dans une école, dans un supermarché, ailleurs. C'est ça la réalité des États-Unis aujourd'hui. Bon. Alors, ça en dit aussi long, je pense, sur les états de tension qui traversent cette société américaine, qui est en proie à, voilà, à ce sentiment de puissance qui s'efface, la montée du wokisme, bon, tout ça, les discriminations raciales, tout ça fait que ce pays est de plus en plus traversé, bousculé dans ses certitudes. Alors je dis pas qu'on peut expliquer la monstruosité de ces actes.
Oh, on a bien compris.
Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est inscrit dans la Constitution américaine. Voilà, vous avez le droit d'avoir une arme.
Alexis Poulain, même avis finalement qu'Éric Revel, Joe Biden ne peut rien faire finalement sur cette question-là, sur cette question du port des armes.
Oui, parce que c'est systématique. Enfin, il y a la Constitution, effectivement, qui est là. Il y a aussi le lobby numéro un, la National Rifle Association, qui est le lobby des armes. Et les présidents américains qui succèdent. Obama avait le même discours. Hein. Il y a eu des tueries à peu près similaires, malheureusement. Et c'est l'impuissance qui domine. Un président ne peut pas changer la Constitution. Il n'y a pas de volonté de le faire non plus. Ça en dit long sur l'état mental aussi d'une société. C'est-à-dire, que veulent dire ces tueries de masse fait la majeure partie du temps par des gamins, hein, des jeunes qui ont 16 ans, 18 ans, 20 ans. Qu'est-ce que ça veut dire d'une société ?
Là, il avait 18 ans.
Oui, celui-là avait 18 ans, il est mort. Donc, on est là dans une... Il faudrait faire une psychanalyse de la société américaine. Pourquoi ces tueries de masse sont symptomatiques de la société américaine ? Qu'est-ce que ça veut dire de cette violence dans les corps, dans les mentalités, au-delà de la possession des armes ? Pourquoi vouloir tuer autant de personnes avec une arme systématiquement ? En France, on en parle peu, mais on a une violence endémique également. Il faut voir le nombre d'attaques au couteau qui ont lieu chaque jour, chaque année, les chiffres font froid dans le dos. Alors nous, pudiquement, on parle de sentiment d'insécurité, mais ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire que la violence est endémique, elle est présente partout dans la société. Aux États-Unis, quand elle arrive, elle surgit dans un bain de sang avec ses tueries de masse. Ça veut dire quelque chose de la société américaine. Moi, c'est ça, je pense, cet angle-là qui est important à souligner.
Éric Revel l'avait sous-entendu peut-être sur cet aspect aussi psychologique, au-delà de la question intrinsèque à nos sociétés peut-être contemporaine, il y a cette question aussi de la crise qu'on a vécue pendant deux ans, cette crise du Covid qui a bousculé toutes nos habitudes avec de nombreuses restrictions. Est-ce qu'on peut estimer en tout cas que l'impact psychologique, il va falloir un moment s'y intéresser véritablement aussi, même si là, je précise bien sûr sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Encore une fois, on ne connaît pas les raisons précises de son acte, mais pour le coup, je parle plus globalement là.
Oui. Évidemment, il y a un vrai mal-être et profond. Enfin, en France, on voit bien sur les jeunes en état de dépression, le taux de suicide, cet enfermement, cette incertitude, cette peur permanente instillée par les gouvernements avec le Covid a rendu fou un paquet de personnes. La gestion même de la crise sanitaire a rendu fou. Rappelez-vous, en France, les auto-attestations, les lois qui changeaient chaque semaine, les rayons jouets et les rayons sous-vêtements interdits, les commerces non essentiels, enfin, à un moment, on ne peut pas en sortir indemne. Et cette gestion a rendu fou. Et je crois que c'est partout pareil. Ça ne veut pas dire qu'il faut décompenser en allant tuer des enfants dans une école. Non, certainement pas. Mais oui, je pense que ça va avec cette violence faite aux populations et cet état mental des populations qui veut dire que oui, on est une société malade. On est une société malade. Et rien n'est fait pour la soigner actuellement.
On y reviendra bien sûr tout au long de cette journée sur cette actualité. Donc, je vous le rappelle, ce drame aux États-Unis, nouvelle fusillade mortelle, 21 morts dont 19 enfants dans une école au Texas. Le suspect, je vous le disais, âgé de 18 ans, a été finalement abattu. Merci à vous en tout cas, Éric Revel, et puis merci à Alexis Poulain d'avoir été avec nous pour ces grands débats.
Merci,
bonne journée à vous. On poursuit, nous, de manière un peu plus légère, Cécile.
Et pourtant, l'heure est grave pour les salles de cinéma.
C'est vrai.
Économiquement parlant, ça devient compliqué. La question question du jour, la vérité en face, c'est pourquoi les Français vont-ils moins souvent au cinéma? Est-ce que ça veut dire que beaucoup de, peut-être beaucoup de sociétés de production vont fermer? Ça veut dire que beaucoup de cinémas vont fermer? Ouais. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous, vous êtes retourné au cinéma depuis la crise sanitaire? Est-ce que aujourd'hui vous n'y retournez pas pour des raisons financières, pour des raisons du fait de ne pas avoir de cinéma autour de vous? Est-ce que c'est le modèle qui a changé?
D'un côté, il y a les strass et les paillettes au Festival de Cannes, et de l'autre, on voit que le secteur économique du cinéma, en tout cas, est profondément marqué, et on va en parler, bien sûr, dans cette prochaine demi-heure.
Et les plateformes ont raflé beaucoup de films pendant le Festival de Cannes. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 10h.